cette conférence sur les mondes décalés du steampunk. Alors peut-être que le terme pourrait paraître mystérieux à certains d'entre vous, mais je pense que beaucoup sont maintenant familiers du genre qui a pris une grande importance ces dernières années. Donc juste pour rappel, on parle de récit steampunk quand l'intrigue du texte se passe majoritairement au 19e siècle, dans un monde dominé par la révolution industrielle, du charbon et de la vapeur, parce qu'en anglais, donc, le mot steam, ça veut dire la vapeur. Donc peut-être que nos auteurs suivent cette définition ou pas, et ça sera ce qui sera intéressant de regarder, parce que le steampunk permet vraiment une grande liberté, et c'est ça aussi qui est vraiment super dans les textes qu'on a aujourd'hui, c'est la variété d'interprétation du genre. Alors, comme ce sont des récits très nerveux, très punchy, je pense que c'est pas mal de commencer la conférence par un petit extrait des textes qui nous mettent vraiment, je trouve, directement dans l'ambiance. Donc, je vais commencer par l'Empire électrique de Victor Fleury, et je vais vous lire un petit extrait du texte. Tandis que les matons s'activaient pour défaire l'homme maigre de ses chaînes, dans des cliquetis de clés et de verrous, l'officier se campa devant l'ex-détenu. Autant mettre les choses au clair dès à présent, pensa-t-il. « Capitaine Edmond Gérard, du corps des hussards impériaux, vous êtes maintenant sous ma surveillance, obéissez-moi et tout se passera bien. » L'absence de réaction du gringalet irrita le français. Comment être sûr que ce squelette était bien le célèbre détective qu'il devait récupérer ? « Êtes-vous le dénommé Sherlock Holmes ? » continua-t-il d'une voix forte. « Condamné voici 9 ans pour incitation au désordre public, sédition, consommation de stupéfiants et complot contre la sûreté de l'État. » Enfin, l'anglais parut se rendre compte de sa présence. Il esquissa une grimace qui pouvait passer pour une tentative de sourire poli. « Veuillez m'excuser, je ne me souviens plus de tous les chefs d'accusation, » répondit-il nonchalant. « Pendant le procès, je prenais des notes à propos d'une autre affaire plus captivante. » Le prisonnier n'était pas aussi dégâti que l'avait cru le capitaine. Gérard détestait les petits malins dans son genre. « Répondez simplement à mes questions, » exigea le hussard. « On a dû vous donner les raisons de votre présence en Écosse. Comprenez-vous ce qui est attendu de votre part ?» Le détective se racla la gorge, victime d'une mauvaise toux. « Je suis impardonnable, » dit-il sur un ton ouvertement ironique. « Je ne devais pas non plus écouter à ce moment-là. J'étais en train d'être molesté par vos amis de la garde pénitentiaire et je déteste faire plusieurs choses en même temps. » Donc, Victor Fleury, pouvez-vous nous parler un peu de votre texte ? On trouve des hussards impériaux. Il y a sur le trône de l'Écosse un Bonaparte. L'Angleterre est en résistance, donc vraiment on est bien dans un monde décalé.
Alors oui, tout à fait. L'Empire électrique, en fait, c'est l'Europe qui a connu un destin un peu différent de celle qu'on lui connaît. Napoléon Ier a gagné sa guerre, et donc à la fin du XIXe siècle, on se retrouve avec une Europe entièrement dominée par l'Empire français. Chaque pays est donc gouverné par un Bonaparte, puisque Napoléon avait l'habitude de distribuer les trônes à sa famille, c'est la même chose pour ses descendants. Malheureusement pour l'Europe, hein, puisque c'est une dictature féroce. Et la science électrique s'est développée beaucoup plus rapidement que prévu. Nous avons donc des robots, des automates, des sous-marins électriques, toutes sortes de machines électriques. Et alors la petite spécificité de ce livre, c'est que j'utilise des personnages littéraires, donc de la littérature du 19e siècle, qui ont eux aussi été touchés par l'Uchronie, et qui donc ont connu un destin différent de ceux qu'on a l'habitude de leur connaître. Donc Sherlock Holmes, Gavroche, le petit gamin des misérables, le capitaine Nemo, Jack l'Éventreur, et bien d'autres, se retrouvent avec une vie différente de celle qu'on a connue.
Est-ce que vous êtes partie des personnages que vous voulez réutiliser, ou est-ce que c'est plutôt l'univers qui vous est venu le premier?
Alors c'est les personnages, hein, parce que il me semblait intéressant de réutiliser des personnages, et notamment des personnages de la littérature française qu'on a peu l'habitude de voir dans le genre du steampunk, dans un univers complètement différent. C'est pour ça que notamment Gavroche, ou alors Zorro, puisque l'une de mes histoires concerne Zorro, qui est un personnage qui est souvent ridiculisé, malheureusement, alors qu'il est quand même à l'origine de, il a, disons, un des liens parentés avec Batman, qui est autrement moins risible. Et Zorro n'est pas risible, d'ailleurs. Hein, et je tiens à le faire savoir grâce à cette nouvelle. Donc tous ces personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un univers parallèle, je voulais leur insuffler des aventures inhabituelles et pouvoir aussi les utiliser comme des personnages. Parce que dans leur monde habituel, ils auraient été dans le carcan de l'histoire qu'on leur connaît. Alors qu'ici, il peut leur arriver tout ce que je décide. Et c'est étonnant.
Et c'est drôle aussi parce qu'on croise Marc Frankenstein, qui est le neveu d'un certain Victor, et il s'occupe d'une femme qui est complètement obnubilée par par son apparence qui est l'impératrice ici. Donc là, on est vraiment dans tout à fait autre chose.
La question qui m'intéressait aussi, c'est la question du progrès, à savoir que en fait, le progrès scientifique, qui était complètement fantasmé au 19e siècle, n'est que ce qu'on lui permet de devenir. C'est-à-dire que les gens du 19e imaginaient un monde transformé et complètement idéalisé grâce au progrès scientifique. Moi, j'arrive après la bataille, et donc je suis un peu moins optimiste. Donc la science voltaïque est finalement au service des puissants, un peu toujours des mêmes, et c'est la pied de taille. La plèbe qui récolte les pots cassés est puissance 1000, puisque le courant utilisé est beaucoup plus fort.
Le détournement dont vous utilisez pour vos personnages fonctionne aussi complètement chez Xavier Mauméjean. Donc voici la réédition du livre Craven qui est sorti, qui est dans une très très belle édition dont vous nous parlerez. Alors en fait, chez vous, le détournement fonctionne aussi à plein. Puisque le sous-titre de la première partie, c'est « Comment Lord Craven ne sauva pas l'Empire ». Donc là, déjà, on est dans le détournement du roman d'aventure. Et pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, je vais vous lire un extrait. Donc juste pour vous expliquer, il y a deux types de récits dans Craven. Il y a un beau-père qui arrive dans sa belle famille qui ne le connaît pas. Et donc, c'est un choc, cette arrivée. Et il y a aussi les récits d'aventure de Lord Craven qui... Voilà, qui est une geste d'aventure hors du commun. Et donc, le passage que je vais vous lire, ça parle de l'arrivée de ce beau-père dans sa famille. Je ne vais pas ouvrir l'ouvrage qui est, vous voyez, sous blister, qui est magnifique. J'ai une photocopie du même texte, donc c'est ce que je vais lire. S'il y avait bien une vérité dans cette vie, c'était celle-ci. George ne pouvait pas encaisser son beau-père. Et ce, dès le premier jour, lorsqu'il l'avait trouvé là, planté sur le seuil, encadré par deux fonctionnaires du gouvernement. Le premier, le plus grand, lui avait tendu une liasse de papier officiel en lui demandant de signer en bas à droite. Il lui avait laissé les doubles et s'était éclipsé avec son collègue plus petit sans emporter le vieux. George avait d'abord songé à une méprise, une erreur de livraison, comme il en arrive parfois avec les colis de vente par correspondance ou avec les plats indiens. Mais s'il était le premier à dénoncer l'incurie et l'incompétence de l'administration, qui pouvait par une simple erreur, une chure de mouche sur un listing, défaire une vie et jamais, oh cela jamais, donner une chance, force lui était de reconnaître qu'en l'occurrence, il se trompait. Le vieux portait le nom de jeune fille de sa femme parce qu'il était son père. C'est du moins ce qu'affirmaient les copies carbone, et sans anticiper sur la ligne droite du récit, il suffira de dire que l'on s'en tint à cette version. George s'essuya les mains sur la jambe de son pantalon de travail, se pencha de côté pour voir si, derrière le vieux, les voisins avaient nettoyé leur cour. Ce qu'il n'avait pas fait. C'est en encourageant ce type de négligence que l'on dévalorise à terme la cote immobilière du quartier où l'on réside, se tuait-il à répéter à sa femme en espérant qu'elle diffuserait sa philosophie dans les allées du supermarché et sur son lieu de travail. Mais à l'évidence, le message n'était pas passé. George considéra l'ensemble de son beau-père, décréta a priori qu'il haïssait ses manières et lui demanda « Qu'est-ce que vous voulez ?» Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du lien qu'il y a entre ces deux récits, en fait, ce beau-père qui arrive et ce Lord Craven qui accomplit toutes sortes d'exploits?
En fait, c'est en 1969, dans la banlieue de Londres, il y a les fonctionnaires des services sociaux qui donc livrent un vieil homme qui a quand même encore de beaux restes, qui ressemble à un vieux lion, dans une famille qui est une famille ouvrière de la banlieue londonienne. Et ce vieux monsieur qui semble amnésique, qui ne reconnaît même pas sa fille, va avoir des espèces de flash en voyant par exemple la pochette de Sgt Pepper avec le tenue victorienne, ou en écoutant certaines musiques, en voyant l'album de Led Zeppelin, évidemment, de Zeppelin. Il va avoir l'impression que quand il était jeune, il faisait partie d'une Angleterre merveilleuse où avec l'aide de celui qu'on n'appelle pas Sherlock Holmes, c'est celui qu'on n'appelle pas Tarzan, mais bon, c'est de cette Angleterre merveilleuse où il luttait contre Peter Pan. Parce que Peter Pan aurait été mauvais, méchant, alors que le capitaine Crochet était quelqu'un de bien, en fait, c'est la reine Victoria, etc. Et il va s'en persuader jusqu'à essayer d'enquêter sur ça, mais évidemment... dans le nom de 69, personne ne se rappelle de ça, sauf qu'il a raison.
Et votre beau-père est donc dans la famille de Georges, et Georges n'est quand même pas une lumière. Il confond Rousseau, le philosophe, et il parle de Rousseau en disant qu'il n'était quand même pas très bon comme peintre. Et évidemment, c'est pas Rousseau le philosophe, c'est le douanier Rousseau. Vous vous amusez bien sûr avec les codes, mais du coup, ça s'adresse aussi à un certain lecteur, non ? Celui qui va décoder les codes pour savoir de quoi vous parlez, pour pouvoir en rire, non ?
Alors, c'est un drôle de niveau, c'est un Georges, parce que dans la mission qui les amène dans la Russie bolchevique, le seul à avoir appris le russe en méthode rapide en lui, c'est Georges, donc son obligé d'embarquer son gendre qui est une brute d'ailleurs soviétique. Oui, ben, en fait, c'est le roman, il est. Moi, j'ai toujours vu ça comme une espèce de collège pop. Il y a toute la littérature populaire, il y a. Il y a deux Sissi justement, à Zorro, à James Bond, à des personnages moins connus comme Département S, Fleet, Batman, etc. J'ai voulu me faire plaisir en faisant un éditeur qui est suivi, et je voulais qu'il y ait tout, absolument tout. Par exemple, d'une édition à l'autre, la première fois j'étais pas très content parce qu'il manquait une poursuite de ski, elle-même suivie par une avalanche, ce que j'avais vu dans un film d'espionnage des animés quand j'étais enfant, j'avais adoré ça. Je me suis rendu compte que le roman était imparfait, il manquait ça. Et heureusement, au bout d'une réédition, j'ai rajouté la vie. Quand même, là, je me sentais mieux, c'était moralement, c'était indéfendable, il n'y avait pas de poursuite de ski avec avalanche. Voilà, pour moi, c'est amusant, enfin, c'est pas qu'amusant, parce que c'est aussi un bon temps noir. Toute proportion gardée, ce collège pop, c'est avec des gens que. C'est la suite de gens que j'admire, comme Alan Moore ou Grant Morrison. C'est cette génération un peu plus âgée qui ont aimé les comics, qui ont aimé l'âge d'or des comics, qui ont aimé la folie de l'âge d'argent des bandes dessinées américaines. Et oui, ça y a eu, voilà, c'est une mixture très antipope.
Chez vous deux, il est question d'un empire. C'est une forme pratique pour le steampunk, une forme politique pratique.
Moi, je voulais un univers français, en fait, pour pouvoir utiliser toutes les références françaises. Et le méchant, entre guillemets, de notre histoire, pour moi, ça reste Napoléon. Bien sûr, tout le monde ne sera pas d'accord, mais c'est en fait le retour de bâton après la Révolution, l'autoritarisme, une sorte de progrès, mais le progrès autoritaire, en fait, un progrès qui n'en est pas, peut-être pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé l'Empire français, d'autant plus que mon Empire français, en fait, se calque sur l'Empire victorien, puisque moi, chez moi, Napoléon II est en fait le décalque de la reine qui a occupé le 19e.
Puis moi, pour le coup, ça permettait de coller plus près du vrai Peter Pan, parce que j'ai aussi intégré tous les personnages de James Matthew Barry, donc certains qui ne sont pas très connus. Et la reine des fées, la reine Victoria, c'était une chance évidente, donc il fallait que j'en tire bénéfice, donc ça pouvait être que l'Empire Victoria.
Parce que chez vous, la reine Victoria est aussi une fée.
Elle est sous l'emprise des fées, mais elle est devenue immortelle, mais elle paye un certain prix quand même pour ça.
Dans l'Empire électrique, Sherlock Holmes sort de prison. Et on va voir, vous pouvez bien sûr nous expliquer un petit peu le cadre de cette première nouvelle. Ce qu'on va voir après que chez Cécile Duquesne, en fait, c'est la planète entière qui est une prison.
Alors oui, la prison, en fait, je me rends compte après coup, est assez présente dans l'Empire électrique, puisqu'on a plusieurs personnages qui soit sont en prison, soit en sortent. Sherlock Holmes a osé critiquer l'empereur dans un journal clandestin. Alors tout détective génial qu'il est, il a terminé au bagne. Et alors qu'il sort du bagne, ce n'est pas d'ailleurs pas pour bonne conduite, hein. C'est parce que l'empereur veut l'utiliser, veut traquer un autre résistant, peut-être encore plus génial que Sherlock Holmes, puisque celui-ci échappe à la police française. Donc pour le traquer, l'empereur veut obliger Sherlock Holmes à enquêter pour son compte. Donc Sherlock Holmes n'aura pas avec lui le célèbre Watson, hein, mais un officier, Edmond Gérard, qui apparaissait dans l'extrait que vous avez lu, Edmond Gérard qui va suivre Sherlock Holmes avec ses gros sourcils, et son caractère français éveillé à ce que Sherlock fasse le boulot pour lequel il a été sorti du bagne.
et la, la collaboration finalement se passe pas trop mal.
Ça, ça vous verrez, hein, mais, les petites remarques français-anglais, de rivalité entre français et anglais, j'ai beaucoup aimé les écrire.
Ce livre Sherlock Holmes est d'origine française. Hein.
Oui, tout à fait. Oui. Exactement. Donc, d'ailleurs, il a l'arrogance française, hein, on connaît bien cela.
Il parle français.
Il parle français. Oui, d'ailleurs, il répond vertement à son geôlier qui lui dit « Vous parlez très bien français » pour un anglais qui déteste les français. Il répond « Je parle anglais à mes amis. » C'est ce qu'il veut te dire. Le deuxième personnage qui sort de qui est au bagne, c'est Gavroche, puisque dans ce tome, Gavroche a échappé aux barricades et se trouve donc être un révolutionnaire endurci qui prône la République. Pas de chance, il est dans un univers dominé par les descendants de Napoléon. Et donc, il est envoyé dans un pénitencier creusé sous terre, dans le désert le plus chaud du monde, le désert de Tanami, en Australie, qui est dirigé en plus par une intelligence artificielle. Donc, c'est un pénitencier dont on ne sort pas. Sauf que Gavroche, lui, n'est pas ici.
Alors, bah, merci pour la transition, puisqu'on est effectivement, on s'approche de plus en plus du monde de Cécile Duquesne, qui est la planète Bagne. Et je vais vous lire aussi un petit extrait, presque au début. Elle était là. Lorsqu'elle entra, les regards voilés par les vapeurs d'alcool se fixèrent sur sa silhouette. Il fallut le claquement du vent dans son long manteau brun pour que quelques-uns remarquent son allure féminine. Une fraction de seconde plus tard, il notait les holsters vides. Le temps qu'il lève les yeux vers le visage caché par un foulard écarlate, au-dessus duquel un regard céruléen les fusillait déjà, elle avait pointé ses deux cols bisselés sur l'assistance. « Black reste ici, les autres ont 60 secondes pour sortir. 59, 58, 57. » L'endroit n'était pas très grand, la voix de Lady Bang portait, et son apparition était suffisamment surprenante pour qu'il suspende l'éclusage méthodique des réserves de Torboyon. Au fond du saloon, non loin de la fenêtre surveillée par Renaud, Black souriait. « Lady Bang, ça par exemple. » La jeune femme considéra d'un air sévère l'homme en loque qui levait sa bouteille en guise de salut. Ses sourcils bruns, déjà naturellement incurvés, se froncèrent encore davantage au-dessus de ses yeux en amande. Malgré les cernes et la marque ronde des lunettes de conduite, son regard bleu restait d'une beauté froide et fascinante. Une véritable apparition, un fantôme de chair impitoyable à la hauteur de sa réputation. Aussi froide que la mort, songea Renaud. Lady Bang n'avait pas l'habitude de laisser de survivants. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc Lady Bang, l'héroïne des foulards rouges, et nous expliquer le contexte dans lequel elle vit?
Alors, Lady Bang, donc c'est un pseudo qu'elle ne s'est pas choisi. Il y a un double sens voulu aussi. C'est un pseudo qui lui vient de sa réputation donc impitoyable. Au départ, Lady Bang, c'est Lara Carax, simplement. D'origine à la fois, donc sa mère était anglaise, son père espagnol, et elle a vécu en France une part de sa vie. Donc voilà, elle est un peu trilingue, etc. Au départ, sur Terre, elle était interprète. Multilingue, elle vivait une vie assez correcte puisqu'elle était interprète pour les ambassadeurs en fait sur place. Et la Terre, il faut savoir que l'histoire se déroule en 2003. Sauf que c'est pas la Terre vraiment, c'est une uchronie aussi. Mais je ne peux pas dire où se situe en uchronie, mais ça fait partie du scénario. Vous verrez pourquoi si vous me lisez. Et en fait, ça se passe 200 ans après le point d'uchronie. Donc c'est vraiment la révolution industrielle n'a pas eu lieu. Elle a eu lieu autrement à cause de l'apparition de la magie. Donc, c'est une révolution industrielle et magique qui est basée sur la télékinésie principalement. Donc on n'est pas vraiment dans du steampunk. Et paradoxalement, la société nationale en 2003, elle était très victorienne dans ses, dans ses certaines, comment dire, certaines acceptations culturelles, certains aspects, notamment sur le côté carcan des femmes, etc. Sur Bagne, c'est un petit peu différent, c'est une autre planète, littéralement. Et les Bagnes portent bien son nom, c'est la prison de la Terre, qui est donc dirigée par ce qu'on appelle le Parti pour la Paix, donc il n'est pas un parti pour la liberté, n'est-ce pas? Donc elle a été envoyée là pour un crime très très grave, je ne vais pas vous dire lequel, découvrir aussi si vous le disiez, qui est un crime qu'elle a plus ou moins commis en partenariat avec son père, qui lui aussi est donc sur Bagne. Et elle fait partie de ce qu'on appelle les Foulards Rouges, qui est une milice en fait, qui a été donc créé par son père, qui lui était un ambassadeur en fait très important sur Terre d'Eurasie en fait, puisque le continent c'était pas deux continents, c'était un seul continent. Et donc lui, suite à ça, il a été envoyé sur Bagne, et comme c'est un fin politicien, il a réussi à unifier à peu près 400 km² de territoire sur la planète prison. Sauf que c'est une planète où l'eau est toxique, quand il pleut, il faut fuir, il n'y a pas de culture qui pousse, donc ils survivent uniquement par le marché au noir. Et donc il y a une leur civilisation qui s'appelle Evoria, qui est un petit peu mystérieuse, tout ça, on ne sait pas trop à quoi ils ressemblent. Et donc le contexte c'est ça, mais de base l'histoire c'est le western. Donc on est dans du steampunk, western, space opéra de l'espace, donc c'est western de l'espace avec un petit peu de pulp, puisque quand même le côté ladyborg, etc., c'est un peu pour se moquer d'elle-même aussi, hein, c'est voulu si c'est un peu cliché. Et donc voilà, et c'est l'histoire des foulards rouges, dont elle est la seule en grand temps féminine. Voilà, en gros, je crois que j'ai répondu à la question.
Mais le steampunk, c'est aussi ça, c'est aussi un millefeuille littéraire, c'est aussi l'intérêt du genre de pouvoir. Tout à fait, en fait, ils mettent un peu aussi ce qu'on veut en termes de liberté pour les auteurs, c'est chouette.
Ouais. Mais en termes d'hybridité, en fait, parce que autant le steampunk, c'est vrai qu'il y a un steampunk comme celui dont vous pratiquez, qui est le steampunk très littéraire que j'adore personnellement, je me régale de trouver toutes les informations, les références, etc. C'est une vraie chasse au trésor, en fait. C'est aussi ça que j'adore dans le steampunk. Et de mon côté, alors je l'ai fait pour Pélican Royal qui est un steampunk pour les 8-12 ans. Mais par ailleurs, pour les foulards rouges, il y a des références en temps, on voit qu'elle écoute la CDC. C'est un steampunk un peu très moderne hein, aussi. J'ai joué ça sur le rétrofuturisme à contre-pied en fait. Elle lit aussi des romans, elle lit Dorian Gray un roman, etc. Donc il y a quand même des apparitions littéraires, on en parle, mais c'est un steampunk revisité au sens où l'hybridité elle n'est pas là où on l'attend. Elle est pas. Elle est vraiment dans le côté transversal au niveau à la fois transculturel et aussi hybride de quand on me demande c'est quoi comme moment, c'est quel style, je ne sais jamais quoi répondre. Donc, j'ai toujours Space Western, Spaghetti, de l'espace, pardon. Donc voilà, j'ai écrit ça après avoir regardé Firefly, qui pour moi, quand même.
C'était une de mes questions.
Voilà, je ne vais pas en dire plus alors. J'attends la question.
Joss Whedon, tout ça, le western, l'ASF, on est d'accord. Alors, notre dernier auteur donc présent, c'est Jean-Luc Marcastel pour Le Simulacre, la seconde vie de D'Artagnan. Et je vais vous lire un petit extrait. Donc, autant chez Cécile Duquesne, on était loin, loin, loin de la Terre, autant chez Marcastel, on est un petit peu sur la Terre et un petit peu dans le ciel. L'image que le miroir renvoyait de la pièce se modifia subitement, comme une eau qui se trouble pour en recomposer une autre, celle d'un parc soigneusement entretenu que D'Artagnan reconnut pour être celui du château. Il y avait à peine une demi-heure, ce nouveau prodige aurait suffi à le stupéfier, mais après ce qu'il venait de voir et d'entendre, il en oublia jusqu'à l'étrangeté de la chose, pour se concentrer sur les silhouettes qui piétinaient les plates-bandes et saccageaient les massifs de fleurs. Et si ce miroir, qui, telle la boule de verre d'une voyante, reflétait l'image d'un autre lieu, ne l'avait même pas fait sourciller, ce qui envahissait sa propriété lui tirèrent un juron ravalé. « Mordieu, qu'est-ce que c'est que ces diables-là ? » Car les assaillants, vêtus de cet uniforme noir qu'il avait appris à détester, s'ils avaient deux bras, deux jambes et une tête, n'étaient pas humains pour autant, automates de métal avec, pour tout visage, un masque luisant et anonyme, que deux yeux rouges et fixes animés d'un semblant de vie redoutable. Venus d'on ne savait où, dans des sifflements funestes, des pinceaux de lumière aveuglants zébraient l'image des jardins, embrasant parfois un massif ou creusant dans le sol des cratères fumants. Alors même qu'il observait, l'un des faisceaux toucha un des assaillants qui explosa dans une réjouissante déflagration, ses morceaux épars jaillissant dans toutes les directions. Ce fut ce moment que choisit la créature mécanique la plus proche pour lever vers eux son simulacre de visage. Dans les orbites profondes, D'Artagnan put voir la pupille rouge et luisante s'étrécir d'un coup, juste avant que l'automate ne lève le bras gauche et ne braque vers eux le canon qui lui tenait lieu de main. Il y eut un éclair aveuglant et l'image disparut. Donc chez vous, Jean-Luc Marcastel, on est dans un 16e siècle, 17e pardon, avec Louis XIV et une Versailles céleste et un nouveau D'Artagnan. Vous pouvez nous en parler un petit peu ?
C'est pas vraiment dans du steampunk, alors moi comme je m'amuse à dire c'est du Versailles punk. Je dépose le concept. Donc en fait le principe c'est tout simple, c'est imaginons que sous le règne donc, du roi Louis XIII, des créatures venues des étoiles et attaquaient la Terre. On a failli tous disparaître, être anéantis, mais on est sauvés in extremis par une autre race venue des étoiles, qui va repousser les premiers et aider les Vaudarques de la Terre à rebâtir leur empire en ruine, en nous vendant une technologie bien moindre que la leur, mais quand même très en avance sur cette époque-là. Ce qui fait que dans ce XVIIIe siècle alternatif, sous le règne du roi Louis XIV, eh bien, on a des châteaux volants au-dessus de Paris, on se déplace en diligence volante quand on a les moyens. Les gentilshommes se battent à coups de rapière énergétique, le pistolet à lumière qui met une minute à se recharger, et effectivement, dans le noir du ciel, au-dessus de la Terre, on est en train d'achever la construction de la Versailles céleste, la nouvelle résidence du roi. Et donc, les fêtes d'inauguration vont bientôt avoir lieu et promettent d'être somptueuses. Et donc, on a des canons des cieux à voile lumière qui font route depuis la Terre jusqu'à l'orbite pour amener les élites à ces fêtes d'inauguration. Et donc, sur un de ces galions, on va faire la connaissance de l'héroïne du livre qui s'appelle Estella, qui est une jeune voleuse rouquine d'origine gasconne qui n'a pas froid aux yeux et qui s'est déguisée en grande dame pour soulager les nobles de leur richesse. Mais malheureusement pour elle, elle va commettre un larcin de trop en essayant de dérober une bague à un homme d'un certain âge. Cet homme-là n'est pas n'importe qui. Il se trouve qu'il s'agit de Charles de Vasse Castelmort, beaucoup mieux connu sous le nom de D'Artagnan, capitaine des mousquetaires du roi. Donc D'Artagnan, vieillissant, mais qui va quand même, on va dire, la surprendre, se moquer d'elle, enfin voilà, lui dire, écoute, ça serait quand même dommage, on voyait un si joli brin de relais à la Bastille. Hein, et puis, au bout d'un moment, quand même, il lui dit, tiens, garde là, cette bague, je te la donne. Donc, notre héroïne n'est pas tout à fait naïve, elle dit, attendez, mais pourquoi voulez-vous me donner cette bague? Un instant, vous voulez m'envoyer à la Bastille, deux secondes après, vous voulez me la donner. Il dit, mais c'est trop tard, ils t'ont vu, et là, ils se retournent, et effectivement, derrière eux se tiennent ce qu'ils appellent des mécanomates, des créatures dont je parlais tout à l'heure, hein, qui vont se lancer à leur poursuite pour le compte du cardinal de Richelieu. Et donc, notre D'Artagnan va repousser Estella dans une chaloupe de sauvetage, lui dire, voilà, je te renvoie sur terre, garde cette bague, quelqu'un viendra la réclamer pour moi. Et donc, elle va retomber dans la Seine et lui porter la coquille au menton et mourir héroïquement, lui permettant de s'enfuir. Et un instant, il meurt, donc se réveille sur terre, le château de Castelmort, donc en Gascogne, le château de D'Artagnan, et qui existe maintenant d'ailleurs, un jeune D'Artagnan de 20 ans, donc qui est le simulacre, le clone, le double, du D'Artagnan d'origine, les gens de ce monde-là, grâce à la technologie de ce qu'ils appellent les archanges, hein, ces extraterrestres qui nous ont sauvés, peuvent faire des simulacres, des clubs, des doubles de même. La seule chose, on peut les envoyer dans les réceptions où on n'a pas envie d'aller, hein, tout ce qu'on a envie. C'est bien pratique, hein, par exemple, là, c'est mon simulacre, hein, vous ne savez pas, mais... La seule chose, c'est que voilà, pour que notre simulacre soit efficace, il faut faire une mise à jour régulière de sa mémoire. Hein. Moi, j'ai fait la mienne juste avant jeûne. Malheureusement, notre D'Artagnan a été fort négligent et donc il n'a pas mis à jour la mémoire de son pauvre simulacre depuis 20 ans. Notre pauvre jeune D'Artagnan se réveille avec la mémoire qu'il avait à la fin des trois mousquetaires. Donc autant dire que tout ce que je viens de vous dire, il n'en sait absolument rien. Et en plus, il a intérêt d'apprendre très très vite parce que tout le monde lui avait appelé. Visiblement, l'original a mis à jour un complot contre le roi, le voleur, peut-être même la terre entière. Et donc, bien sûr, il va devoir retrouver notre héroïne car elle détient cette bague dans laquelle sont enregistrés les souvenirs du D'Artagnan d'origine. Donc, avec un temps ainsi à la bord de chevaux et des volants. C'est vrai, ça fait vraiment ça, de façon à l'heure.
Et du coup, dans l'extrait que j'ai lu, il y a des mécanomates. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit clin d'œil à du film Star Wars ou non?
Moi, j'aime bien les automates, je trouve ça très inquiétant, les automates. J'avais visité une fois un musée des automates. J'ai toujours trouvé ça inquiétant. Alors imaginez, voilà, cette espèce d'automate comme ça, avec un cerveau humain dans un coquin à l'intérieur, ça m'a beaucoup amusé. Alors justement, mon honneur, le premier duel que fait D'Artagnan, il se bat contre cet automate, il lui coupe la tête, puis il se retourne à pencher, lui disant, ah, mais alors, il y a l'énergétique, là, tiens, ça coupe tout, ça me fait bien, ça. Et puis il y a son valet qui tire, en fait, derrière lui, parce qu'il lui explique après que le cerveau n'est pas dans la tête de l'automate, pour continuer, en fait, il est à l'intérieur du buste. Donc, bon, je sais pas, après ça, tu pensais à quoi?
Pensez aux soldats dans Star Wars qui sont toujours avec leur casque, et moi, pour moi, je les ai toujours vus comme des robots. Je sais qu'il y a des êtres humains dessous, mais comme ils sont complètement uniformisés, il y a ce côté reproductible à l'infini, quoi. On a l'impression que les légions du mal sont innombrables.
Alors non, parce que alors, moi, mes mécanomates, justement, si on a mécanomates de base, c'est-à-dire qu'on va avoir un masque qui ne bouge pas. Ceux qui sont plus riches, par exemple Richelieu est devenu mécanomate. Il a fait conserver son cerveau à l'intérieur d'un mécanomate, sauf que lui, il a un visage qui est fait de céramique, etc. Il peut quasiment avoir des émotions humaines, et même mieux que ça, donc en fait, son corps, c'est l'armure qu'il a, j'ai pris en fait comme visuel, l'armure qu'il a dans le tableau, le siège de la Rochelle, qui est un peu ces sports-là, et donc le détacher la tête, qui va se greffer dans la nouvelle Bastille, qui est en fait la prison qui est au-dessus de, et où il peut diriger directement, donc entièrement la prison qui est au-dessus de Paris, une espèce de cube de métal qui flotte au-dessus de Paris. Et donc, et Athos aussi, hein, qui a été sauvé, il est devenu aussi un mécanomateur. c'était un homme qui buvait un petit peu, il est devenu très célèbre.
Oui, Xavier.
Je pense à écouter mes collègues, ce que je pense, ce qui est important dans le steampunk, qui est quand même relativement jeune, comme genre littéraire, parce que même si c'est quelques décennies par rapport à d'autres. Bon, bref, ce qui compte chez tout le monde ici, c'est le goût de raconter quelque chose, et raconter quelque chose qui fasse s'évader. Je crois que ce qui nous plaît, c'est l'aventure et l'évasion. Alors après, il y a nos dosages personnels, effectivement, les références, etc. Mais c'est le plaisir, après quand même, quelques traditions françaises du nombrilisme, quand même. C'est de retrouver ce qui appartient, j'ai Jean, par exemple, qui est très, très attentif, notre tradition du 19e siècle, qui était du feuilleton, de l'aventure, du récit, du rebondissement, de savoir jouer de tout ça, mais revisité avec la lecture, justement, de références. Tu disais, c'est très joli comment tu écris le steampunk, Western Spaghetti, Espace, c'est pour ça de reprendre des codes, mais de le faire avec second degré, référence et plaisir surtout.
Oui, parce que les mystères de Paris planent effectivement sur ce genre de récit.
Du mal à on va dire, on a droit de parler d'histoire sur les faits de vos enfants.
Il y a aussi un des points du steampunk qui me paraît important, c'est le côté donc mécanique le côté magie. Donc effectivement chez vous, ou en tout cas où la science voisine avec la magie, par exemple dans les foulards rouges, c'est la magie électrique. Donc j'aimerais bien que c'est cette, une énergie apparemment inépuisable, j'aimerais que vous en parliez un petit peu.
Après, bon, c'est un petit peu un spoiler, mais la magie dans les foulards rouges, elle est, c'est du nucléaire en fait. Donc elle contamine aussi son territoire, c'est pour ça que Bagne est littéralement irradié par la magie. Et donc la manière dont il l'exploite, en fait, quelque part, c'est un petit peu des réactions en fusion, en chaîne, etc. La fusion, les réactions en chaîne, tout ça. La magie électrique, en fait, donc c'est un mot valise, hein, entre magie et électricité, tout simplement, mais c'est un petit clin d'œil, justement, au steampunk qui base... on parle de steampunk et non pas d'électropunk, alors que pourtant, dans le steampunk, il y a de l'ampire électrique, par exemple, c'est du steampunk, pour autant, c'est pas la vapeur. On réduit souvent le steampunk à son côté vapeur, ce qui est très bien. D'ailleurs, en France, les steamers s'appellent les vaporistes, il me semble. Et j'aime beaucoup ce nom, c'est très très beau. Mais ça commence à réduire le steampunk à un seul de ses aspects. Or, dans steam, vous avez steam, vous avez punk. Et punk, c'est hyper important dans steampunk. C'est-à-dire que c'est là où, justement, tout ou presque est permis. Vous disiez tout à l'heure que, justement, c'était un genre qui était très malléable, le plaisir de créer. Mais justement, le steampunk, ce qui est génial, c'est que ça peut aller dans tous les genres. On peut faire, moi, j'ai fait du space opéra steampunk. On peut faire, je sais pas, du roman policier steampunk. On peut faire toutes sortes de genres. Je pense, enfin, on pourrait écrire les Trois Mousquetaires à la sauce steampunk. Voilà, avec D'Artagnan, le simulacre. Moi, je connaissais pas, et dans un moment, je vais aller voir sur le stand après. Mais je veux dire, c'est ça qui est formidable avec ce genre. Et personnellement, l'approche que j'en fais, c'est vraiment par l'hybridité. Et donc, la magie électrique, c'est une approche hybride aussi. Et c'est très important, je pense, de penser le steampunk pas uniquement du côté des rouages, du cul, etc. Même si là aujourd'hui je prends un très bon exemple parce que justement je suis née avec un peu tout ce qui est cliché, mais c'est voilà, au-delà de ça, il y a quelque chose qui se développe. Et d'ailleurs, au bouton électrique, il y a un essai qui est paru par Étienne Barillier qui s'appelle Steampunk avec un point d'exclamation. Je ne sais plus s'il est encore disponible. Il y a la France Steampunk qui est paru récemment aussi. Et qui sont des ouvrages, en fait, que je qualifierais de référence et qui, justement, font aussi le tour du steampunk japonais. Il va du côté un peu de l'Asie, il va du côté aussi des films, etc. Il va voir les origines. Et c'est très intéressant. Et moi, la magie électrique, je reviens à chaque fois à la magie électrique. C'est donc une énergie qui est basée, moi on pourrait dire c'est plutôt de la tompum du coup. Un petit peu comme Astro Boy qui est casé comme du steampunk, mais en fait Astro Boy en japonais c'est Atomic Boy. Voilà, désolé. Donc c'est de l'énergie atomique, c'était une commande du ministère des armées et de l'énergie japonaise aux gens qui voulaient promouvoir l'atome pour la paix, etc. Donc post-seconde guerre mondiale quand même. Voilà. Et donc du coup, moi par rapport à ça, parce que c'est aussi ce que j'étudie pour ma thèse, etc., ça a influencé. Et c'est pour ça que j'ai créé un système de magie qui est basé sur justement le nucléaire. Et donc l'énergie, je ne peux pas appeler juste le nucléaire.
c'était moche et ça ne fonctionnait pas et ça ne plaisait pas. Et donc le mot magie écrit s'est imposé de lui-même. Donc le mot nucléaire n'est jamais dit. Jamais, jamais, jamais. Par contre, pour un lecteur attentif, il remarquera ce qui se passe. Et donc c'est vraiment la source d'énergie. La révolution industrielle n'a jamais eu en ce lumière-là. Donc tout ce qui est moteur à vapeur, pour eux, on ne laisse pas. Hein. Vaguement le moteur à explosion un petit peu, parce que ça a un peu plus fait date. Donc les gens qui sont un peu pauvres sur Terre, ils n'ont pas de magie à disposition. Voilà. Mais c'est à peu près tout, ça ne s'est vraiment pas développé. Et donc c'est vraiment l'énergie principale. Les gens qui sont très riches, ils ont pas des voitures, mais des calèches, justement, à magie électrique, etc. Aussi. Donc on n'est pas tout à fait dans les mêmes genres de calèches, mais ça se ressemble. Victor Chlory, chez vous, il y a la médecine voltaïque. Est-ce qu'on pourrait nous en dire un petit mot?
Alors, tout à fait. On revient sur le coup l'énergie. Moi, mon énergie n'est pas magique, hein, mais je voulais faire de la science-fiction dans le passé. Donc, vous ne trouverez rien de fantastique. Alors, rien. Vous avez quelques petites touches par-ci par-là, mais c'est en arrière-fond, et puis c'est le fantastique. Il y a des premiers termes, c'est-à-dire qu'il y a un doute, et on n'est pas dans la fantaisie. On n'est pas dans le fantastique assumé. Notamment pour les lecteurs de Lovecraft, on trouverait peut-être quelques petits éléments qui vous plairont. Mais pour en revenir à l'énergie, l'énergie électrique de l'Empire électrique, c'est une électricité telle que la concevaient les hommes du 19e siècle, c'est-à-dire une électricité complètement fantasmée. On découvre l'électricité, elle peut tout. C'est une énergie incroyable qui va faire avancer l'humanité sur le chemin inexorable du progrès. On est revenu depuis. Mais voilà, c'est cette idée que je voulais amener. Je vous donne un exemple. Le Nautilus, chez Jules Verne, est déjà électrique. Alors comment se fournit-il en électricité? Eh bien, le Nautilus prélève dans l'eau de mer le sodium pour en faire de l'électricité, ce qui est absolument n'importe quoi. Merci Jules Verne. Mais bon, à l'époque, pourquoi pas, hein? Et du coup, c'est vraiment cette pseudo-science, mais cette science au but du passé, que je voulais mettre en avant. Et oui, au passage, du coup, je réponds à deux collègues. Moi non plus, je ne fais pas du steampunk. Orgueilleusement, j'ai inventé le voltapunk. Voilà. Et puis pour Sherlock, parce que du coup, j'ai pu réfléchir, il y a justement, alors il me semble que c'est un général de Napoléon, dont le prénom est Sherlock. Et donc, on pourrait imaginer qu'il s'agirait d'un lointain vaisseau ascendant de Sherlock Holmes.
C'est pas exactement un général, c'est un député de la Convention qui était anglais et qui a été enfermé dans une prison française juste après la Révolution avec un Holmes. C'est ça qui est fascinant, c'est que quand bien donc aux alentours de 1789-90 plutôt, quand il y a eu l'appel qui a été fait dans cette prison juste à Saint-Malo, on a clairement entendu Sherlock et Holmes. C'est fascinant.
Est-ce que Conan Doyle n'aurait pas pu être au courant, au savoir et s'en être inspiré?
Je pense pas, je pense que c'est vraiment dans la coïncidence.
Donc finalement, Sherlock Holmes serait plus proche de son ennemi juré qu'il ne pense.
Chez vous, Xavier Mauméjean, il y a aussi tout un tas de gadgets. Inducteur de sommeil, il y a aussi bien sûr un dirigeable. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu un côté sense of wonder de l'ASF, de l'âge d'or de l'ASF et les gadgets à la James Bond?
Ah ben tout à fait, oui, non, mais je vous dis, c'est la forêt à la farfouille, hein. Il y a tout, vous trouverez absolument tout, et si jamais il y a quelque chose que vous cherchez qui n'y est pas, ce sera un échec, ce serait une nouvelle avalanche à ski. Oui, parce que en plus, comme l'époque évolue, ils ont une conquête spatiale, mais qui est bien du tout, parce que en fait, je pars de Verne, de Wells, donc eux, ils bénéficient de la matière que décrit H.G. Wells, qui est la cavalerie, ils sont sur les mémoires, enfin, je vous dis, c'est un inventaire. Donc, c'est du. J'en tous mes collègues, c'est du steampunk pour la tonalité, mais enfin, dès lors que l'époque évolue, ça devient aussi tout simplement la science-fiction par la suite. Il y a même ce que j'appelle des mécanomes qui sont un clin d'œil à Iron Man, celle des dangers, comme celle qu'ont les X-Men. En fait, il n'y a rien d'original. J'ai rajouté des titilles et des virgules, mais c'est un gros collage, quoi, voilà. Mais c'est ce qui m'étonne toujours, c'est que si on prend Batman, par exemple, je vais faire un sujet, mais je vais y revenir. Batman, s'il a 21 ans en 1939, qui est la première aventure de Batman, elle paraît en 1939, admettons qu'il ait 21 ans, qu'il a la majorité de l'époque aux États-Unis, il est donc né en 1918, le vrai Batman, Bruce Wayne. Or, de nos jours, Bruce Wayne, il a affaire à la nanotechnologie, il a une assistante qui s'appelle Oracle, qui est très forte en informatique, etc. Mais ça ne gêne pas le lecteur, c'est-à-dire que le lecteur va aussi bien aimer une histoire d'un vieux comics de 1940 de Batman que une histoire qui engage l'hypertechnologie de Batman. Et quelque part, toutes les contradictions flagrantes, le lecteur les résout. C'est comme si on aime Sherlock Holmes, on va aimer Conan Doyle, il y a d'autres pastiches qui sont excellents, et puis on va aimer celui de Victor Fleury, etc. Et on va réussir à se créer, au-delà de toutes les contradictions, son Sherlock Holmes, son puissance qui nous plaît dans les... Et même ça peut être dans les romans, donc dans les originaux, dans les pastiches, et s'il y a quelque chose dans un film de Sherlock Holmes qui nous plaît, et ben on va le prendre aussi, ben c'est ça, Cramon, en fait, c'est un mélange de tout ce que j'ai pu apprécier ici et là, voilà.
Et est-ce que vous pouvez nous parler alors de la réédition Nemos, qui est très très belle, de Cramon?
Alors oui, le mérite revient à Nemos, c'est pour les 20 ans, donc on a fait un omnibus qui rassemble... les deux romans, la publicité pour le jouet, le même articulé, Lord Craven, les nouvelles, une longue préface très érudite et vaguement ennuyeuse sur la maison d'édition des aventures de Lord Craven, maison d'édition qui n'a jamais existé, évidemment. Donc, et évidemment, comme toutes les discussions de spécialistes, ça ne concorde pas, ça ne concorde jamais les spécialistes. Et puis surtout, j'ai plein d'amis comme Fabrice Collin, Serge Lehmann, j'ai en oublié, c'est horrible, François Bruno, etc., qui ont, Catherine Dufour, qui ont bien voulu ajouter un souvenir d'enfance quand ils avaient 11-12 ans, quand ils lisaient leur Craven, les souvenirs qu'ils en ont gardés, sachant que leur Craven a été écrit 30 ans après, ils avaient 11 ans à peu près. Voilà, c'est toujours cette idée de pop, quoi, de mélange, d'amusement.
C'est vrai que ce qui m'a frappé aussi, donc, c'est que vos textes sont très nerveux, comme si le temps était une donnée à maîtriser. Est-ce que c'était quelque chose que vous avez voulu faire, un récit vraiment d'aventure qui soit le plus nerveux possible?
C'était obligé, parce que comme on faisait une sorte de panorama accéléré des aventures de Lord Craven, il fallait que toute la carrière de Lord Craven soit écrite en une partie, donc sont des flashs, effectivement. Mais c'est toujours cette idée d'explorer la mémoire d'un lecteur qui conserverait des bouts de films, de bandes dessinées, de romans. C'est ce que chacun fait ici. On se recrée en fait une œuvre qui est une œuvre personnelle. Et c'est comme ça que, effectivement, il y a le côté nerveux accéléré.
Et je pose aussi la question du coup aux autres auteurs, parce que ça m'a vraiment frappé, cette cohérence entre guillemets sur la maîtrise du temps dans les textes.
Alors pour les Foulards Rouges, pour moi, particulièrement, puisque c'est une série en fait, au départ primo-numérique, donc chaque épisode, je ne parle pas en chapitre, je ne parle pas en tome, je parle en saison, et c'est pas juste artificiel, c'est-à-dire qu'il y a un format sériel qui a été imprimé, qui a été pensé en amont des épisodes dans les synopsis. Et donc, comme toute bonne série, vous avez des cliffhangers à la fin, vous avez vraiment l'effet d'attente entre chaque épisode, il y en a un par mois, il y en avait, puisque le dernier épisode, tout dernier de la saison 3 sort à la fin du mois. Et donc à chaque fois, apparemment, l'effet d'attente chez les lecteurs a bien fonctionné, parfois la frustration négative, parfois positive, ça dépendait. Et moi, j'ai fait en sorte que chaque épisode, en fait, ait un format, en fait, qui, comme un épisode de série télé, ou par ailleurs, les romans qui sont parus chapitre par chapitre, à l'époque où on parlait justement de Luma, etc. Même si je ne compare pas évidemment à eux, je n'oserais jamais faire cela. Mais vraiment, une pensée, une écriture sérielle, en fait. Donc là, je parle d'intégrale, parce que vraiment, ce ne sont pas des tomes. Ce n'est pas écrit comme un roman, ce n'est pas les mêmes rythmes. Par ailleurs, ça ne veut pas dire qu'un roman ne peut pas avoir un rythme ultra enlevé, etc. Je ne dis pas du tout ça, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. C'est juste que c'est écrit différemment. Et ça a été prévu en fait pour le format papier, c'est le petit plus. Mais au départ, c'était vraiment écrit pour être lu en numérique. Et donc, dans un épisode, on calibre ça en temps de lecture. Donc, la gestion du temps, elle est primordiale. Parce que le temps, déjà, de lecture, moi, il fallait que chaque lecteur, pour le prix qu'il payait à chaque fois, parce que chaque épisode avait un prix bon, bien moindre qu'un roman entier, hein, évidemment, ça se joue entre 2 euros et 3 euros, je crois. Ça a varié. Au début, on a cherché à voir quel était le bon prix. Et c'était entre 1h et 1h45 de lecture l'épisode. Donc pour moi, c'est des gros volumes quand même, mais même si ce sont des gros volumes, au final, ça fait quelque chose comme entre 20 000 et 25 000 mots. Donc ça fait, c'est assez colossal, mais en même temps, on ne peut pas raconter grand-chose, donc pas que ça aille trop vite non plus. Et il faut que chaque épisode remplisse il y a 7 épisodes par saison, et c'est tout. C'est pas comme dans un roman, on se dit, ah bah sinon, je vais rajouter un chapitre. Là, non, il y a un rythme. Du côté de la sérialité, c'est très important. Et donc, le temps, moi, j'en parlais hier dans la conférence sur les voyages, je me sers beaucoup des déplacements des personnages pour jouer justement sur la temporalité, les étirements et la densification du temps. Donc, c'est très important dans les Foulards Rouges. Jean-Luc Fleury, et Victor Fleury, excusez-moi. C'est steampunk aussi.
Moi, évidemment, comme je m'inspirais de Dumas, j'ai vraiment voulu retrouver un petit peu le côté feuilletoniste de Dumas. Donc chaque chapitre, je le conçois quasiment comme une petite histoire indépendante. Il y a une suite, bien sûr, mais à chaque fois, voilà, je le tiens justement, effectivement, avec une longueur à chaque chapitre, que le lecteur n'ait qu'une envie, c'est d'avoir la suite de l'épisode suivant, donc de prendre l'épisode suivant. Donc, chaque livre aussi, je dois avouer que c'est un peu frustrant des fois pour le lecteur. Mais non, je m'inscris vraiment dans cette tradition-là, et surtout dans ce récit. Donc, il faut qu'il se passe au moins une chose par page, voire même plusieurs. Il faut que ça couche tout le temps. C'est ce que je dis, c'est un récit où on cavale, on ne rate pas, on court. Et où j'ai voulu aussi retrouver vraiment la verve de l'humain, c'est-à-dire dans les dialogues. Et les dialogues, il faut que ça fuse, il faut qu'on rit aussi, enfin que ce soit amusant. Donc j'ai vraiment voulu m'inscrire dans cette tradition-là. Et essayer de retrouver ça dans les trois volumes.
Victor Fleury, alors du coup, vous avez des histoires. Ce sont des histoires.
Alors oui, ce sont 6 histoires différentes, qui composent tout de même un tout, puisqu'elles se déroulent dans le même univers, et que chronologiquement, elles se suivent. Donc les personnages principaux ne sont pas les mêmes, puisque pour la première histoire, donc Sherlock Holmes, deuxième histoire, le descendant du docteur Frankenstein, troisième histoire, Zorro, quatrième histoire, Gavroche, cinquième histoire, Jack l'Éventreur, et sixième histoire, le capitaine Nemo. Donc des personnages bien différents, mais qui, finalement, ont un point commun, vivent dans un monde dominé par l'Empire électrique et les descendants de Napoléon. Donc finalement, un ennemi commun, des valeurs communes peut-être, et puis peut-être aussi des opposants communs, des personnages secondaires communs et des événements qui vont avoir des conséquences, qui vont se dérouler dans une nouvelle et avoir des conséquences dans d'autres nouvelles. En fait, il y a un fil rouge que vous allez voir se dessiner, une intrigue peut-être plus géopolitique, plus générale, au fil du livre. Sinon, je vous rejoins complètement, je m'inscris aussi dans le feuilleton du 19e siècle. C'était ces feuilletons à 3 sous, il fallait maintenir le lecteur la tête dans le papier, il fallait l'empêcher d'abandonner la feuille et l'obliger à tourner la page. Donc, c'est exactement ce que je recherche, d'où ce désir de muscler le récit, d'être toujours dans l'attente, dans la frustration, effectivement. Et d'ailleurs, je trouve que c'est quelque chose qui nous manque un peu en France, c'est-à-dire que les anglo-saxons aiment beaucoup les nouvelles, alors là, en l'occurrence, il s'agit de novellas, parce que c'est trop gros pour être une nouvelle, c'est trop petit pour être un roman. Mais ces récits qui ne sont pas forcément fleuves, qui peuvent participer à un tout, mais qui ne sont pas le parent pauvre de la littérature. Stephen King a écrit de superbes novellas et nouvelles, et je trouve qu'en France, il faudrait qu'on s'y intéresse un peu plus.
Xavier Mauméjean, votre texte est paru initialement en 2002, c'est donc le précurseur au niveau de cette conférence, et vous êtes aussi sans doute un des précurseurs du steampunk en France, non?
C'est un des premiers textes, oui, mais il ne faut pas oublier que le steampunk, c'est américain, c'est Étienne Barillier, justement, on retrace très clairement l'histoire dans ses ouvrages qui sont de référence. Donc c'est américain, le steampunk, mais les Américains eux-mêmes se réclament de teintures, de tonalités, souvent de l'Empire britannique, mais d'auteurs des Français, et donc il y en a sont ceux qui ont été évoqués ici, Jules Verne, Dumas, beaucoup, Maurice Leblanc aussi, Arsène Lupin est un personnage qui a encore beaucoup beaucoup d'énergie qui est très vivant et vivace, même aux États-Unis. Donc en fait, il y a un steampunk français, une sorte de retour aux sources, et je dirais que le steampunk français a été évoqué la communauté des vaporistes, et de plus en plus de très originaux, ne sont pas des suiveurs. Nous sommes, on a une tonalité, bah, c'est par exemple reprendre D'Artagnan, qui va de soi, qui est même carrément légitime, on revient justement aux sources. Le steampunk français n'est pas qu'une déclinaison de quelque chose d'anglo-saxon, il est légitime et très original.
Et est-ce que vous avez suivi l'engouement pour le genre et aussi pour un certain mode de vie où les gens fabriquent leurs costumes steampunk? Il y a beaucoup ici à Épinal d'ailleurs.
Moi, avant de laisser la parole à mes camarades, je vais juste vous dire une chose. J'ai eu la chance de faire un très bel album illustré qui s'appelle Steampunk, qui va pouvoir être ainsi avec Didier Graffet, qui est un artiste hors norme, qui est toujours aussi simple et charmant. J'ai encore un téléphone il y a quelques jours pour avoir quelque chose de nouveau. Et juste cette anecdote-là, Didier Graffet, donc artiste français, est l'un des graphistes de la série Game of Thrones. C'est tout simplement pour vous dire qu'il y a une qualité française de la communauté française qui va juste là.
Moi, justement, à propos de ça, je suis quand même très étonné. Parce que c'est le steampunk qui est quand même quelque chose qui est très visuel, hein, finalement. Et alors qu'on pourrait se dire que ça aurait été adapté au cinéma depuis longtemps, alors il y a beaucoup de costumes, bon, ça tombe beaucoup dans le cosplay, etc. En ce moment, ça fait pas énormément. Et par contre, ce qui est marrant, c'est qu'au cinéma, il n'y a pas eu d'œuvre, pour l'instant, ça n'a pas transpiré tellement dans le cinéma. À part, c'était quoi vraiment, le mystère de West qui n'était pas franchement une réussite. À part cette araignée de métal qui était assez réjouissante à la fin, la série originale était assez étonnante. Et par contre, justement, on n'a aucune œuvre d'importance, alors que justement, visuellement, c'est quand même assez extraordinaire. Bon, je suis assez surpris.
Alors, on a les trois mousquetaires steampunk, mais il n'est pas bon. Je pense que le tien est mieux. Oui, j'en profite pour placer une citation sur Souvenir. Tu disais que finalement, en fait, faire du steampunk, c'est se souvenir de ce qui a été fait et de se l'approprier. Du coup, Victor Hugo disait justement, créer, c'est se souvenir. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on utilise un matériau qu'on connaît tous. Et quand je m'amuse avec Sherlock Holmes ou quand tu t'amuses avec Tarzan, c'est des jouets en fait qui appartiennent à tout le monde et on se les approprie pour les casser un peu.
Sur la question du do-it-yourself, etc. Moi, je ne suis pas douée du tout pour ça. Mais j'ai des amis très doués, en fait, qui sont artisans et auxquels je passe commande parce que ça les fait vivre aussi et ça fait toujours plaisir de participer à un projet de vie aussi beau et aussi différent, j'ai envie de dire. Notamment, l'expert que j'ai, c'est un ami qui est artisan du cuir sur Aix-en-Provence et qui, en fait, fait partie de la communauté laboriste d'Aix-en-Provence et notamment dans la communauté en question s'appelle la Nef des Premiers Hommes. Alors, homme, pas H-O, mais c'est Omega, voilà, avec H-M-S. Et donc, il y a aussi une communauté qui s'est créée vers Nice. Je sais qu'il y en a une vers Lille, enfin, il y en a plein un peu partout en France. Et ce qui est incroyable, c'est que chacune de ces communautés, en fait, s'empare, comme tu disais, du paysage culturel, en fait, local. Moi, je sais qu'on est en train de préparer un truc sur le steampunk exois, en fait, avec un auteur, alors encore Jackie, mais voilà, il y a des choses qui se préparent comme ça. L'ouvrage La France steampunk, par exemple, c'est quand même assez. Enfin, c'est une affirmation quand même d'un ethos de quelque chose de la France et steampunk, et elle l'est de manière différente et unique. Ce n'est pas le steampunk américain, ce n'est pas le steampunk anglais ou japonais ou je ne sais quoi. Et c'est bien. Mais après, voilà, pour le do it yourself, nous, moi, je participe du steampunk littéraire. Après, je ne sais faire que du do it yourself littéraire. Voilà. Pour le reste, je laisse ça aux autres. Mais si vous voulez tenter, j'ai déjà tenté, moi j'ai fait un chapeau, un truc comme ça. Mais bon, c'est pas à la hauteur, loin de là, de ce que certains font et qui est magnifique et qui vraiment relève de, pas juste de l'artisanat, mais vraiment de l'art. Quoi.
Moi je dois avouer que je décolle pas mal, je sculpte, j'ai fait non seulement qu'il y a une curiosité, avec des souvenirs de voilà, on va dire, du système solaire, c'est un petit peu steampunk, avec des tromblons bizarroïdes, des tentacules, des machins comme ça, je m'amuse beaucoup, en rectant.
Et bien on va souhaiter une longue vie au steampunk et à vos textes, évidemment, qui sont super chouettes. Merci à tous.